おかしい。
Diplomatie et coopération bilatérale RDC-Belgique depuis 1960 à nos jours. Quel bilan dressé des relations RDC-Belgique 50 ans après? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans ce spécial dialogue entre Congolais l'ambassadeur de Belgique en RDC, Dominique Preuss. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonsoir et merci de m'avoir invité à la veille de ce début de festivités du 50 mai.
Vous êtes très nombreux à réagir, vos chers auditeurs de Radio Okapi. C'est le cas de Florie Lipouli de Kisangani en province orientale. Le bilan diplomatique entre la Belgique et la RDC est peu performant. 50 ans après l'indépendance, car l'instabilité du gouvernement belge serait l'une des causes. Omar Kavota de Beni au Nord Kivu, la Belgique est-elle satisfaite de la gouvernance et des dirigeants actuels congolais? De quoi se reproche-t-elle dans sa politique étrangère et coloniale envers la RDC? Bienvenue à tous et merci de nous suivre partout en RDC pour la fréquence FM et à travers le monde sur www.radiookapi.net.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Monsieur l'ambassadeur, avec vous dans cette émission, nous allons parler des relations RDC-Belgique depuis 1960 à nos jours. Depuis l'indépendance en 1960 de la RDC, ancienne colonie de la Belgique, les relations des deux pays unies par une histoire coloniale de près d'un siècle ont souvent été en dents de scie. D'abord du temps du maréchal Mobutu avec le contentieux belgo-congolais, ensuite avec M. Karel De Geus, ancien ministre des Affaires étrangères belge. Comment évoluent les relations RDC-Belgique? Suivons cette converse avec le professeur Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba, vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université de Liège. Le 30 juin, la RDC va fêter son cinquantenaire. Et parmi les autres à cette grande manifestation, le roi belge Albert Ier. On sait que plusieurs fois, les relations entre la RDC et la Belgique étaient tendues. Comment évoluent ces relations depuis 1960 à ce jour?
Depuis 1960, il faut bien se rendre compte que les relations entre la Belgique que le Congo a connu des hauts et des bas. On peut dire qu'il a connu plus de bas que de hauts. En fait, c'est lié à la situation particulière de l'accession à l'indépendance de la RDC. Et c'est là qu'on doit trouver la source en fait, de tous les problèmes, de toutes les difficultés qu'il y a à avoir des relations sereines entre les deux pays. C'est-à-dire que la Belgique, en 1960, lorsqu'elle accepte de pouvoir accorder l'indépendance à la RDC, la Belgique n'était pas du tout prête à pouvoir le faire. Elle a été contrainte de pouvoir accepter cette indépendance. Et du côté congolais, en ayant indépendante, on n'a jamais non plus coupé les liens de manière claire avec l'ancienne métropole qui est la Belgique. Donc, ce qui fait que, entre les deux pays, il y a toujours eu une espèce de lecture différente des différents événements qui se sont déroulés entre les deux pays, les plus différentes du côté belge, mais aussi du côté congolais. Par ailleurs, cette lecture différente, ce qui fait que l'on a des positions qui sont divergentes et on a des bas plus que des hauts. Mais en ayant les hauts ont toujours été chauds en couleur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, aussi bien la crise peut durer assez longtemps entre la Belgique et le Congo, mais au moment des réconciliations, on arrive toujours à trouver des moyens de symboliques de marquer la réconciliation entre les deux pays.
Est-ce que ces réconciliations sont sincères?
Les réconciliations sont momentanément sincères. Émotionnellement, je vais dire sur l'instant, oui, mais sur le fond, non. Pour la bonne et simple raison que les deux visions, comme je vous l'ai dit depuis 50 ans, continuent à rester et continuent à coexister. En fait, on n'a pas la même interprétation, on n'a pas la même vision des différents événements et des différentes choses qui sont entre les deux pays, et de ce fait, même s'il y a des réconciliations, ou soit des réconciliations momentanées, mais je ne doute pas que dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, il pourrait y avoir une nouvelle crise.
Le roi Albert Ier sera dès ce lundi à Kinshasa pour prendre part aux festivités du 50e. Est-ce que la présence du roi Albert Ier peut-elle avoir une signification particulière?
Ben, tout à fait, parce que c'est une question tout à fait particulière, du fait que la dernière visite royale au Congo date quand même de 1985, donc il y a 25 ans, c'est la dernière visite royale datée. Et c'était important aussi pour se donner de savoir que le Congo reste quand même un enjeu important pour la Belgique. Un enjeu important pourquoi? Puisque grâce au Congo, la Belgique est une grande puissance au niveau international. Lorsqu'elle doit aborder les questions fondamentales, ces questions ne sont prises en compte que lorsqu'il s'agit du Congo. Dans le cadre européen, dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de la communauté internationale, c'est établi. Et de ce fait, il va de tout ça, que de par la position privilégiée qu'occupe le Congo dans le contexte politique belge, il va de soi que le roi ne peut qu'assister aux festivités du 30 juin et du côté congolais. C'est quand même aussi un signe assez fort du fait d'avoir cette éditoriale permet quand même d'une certaine façon aussi du côté congolais à pouvoir redorer le blason qui est terni ces derniers temps avec une série de problèmes dont l'assassinat du militant droit de l'homme TBA.
Mais pourquoi la visite du roi à l'RDC a suscité autant de débats en Belgique?
La visite du roi suscite débats en Belgique pour la bonne et simple raison que le Congo est un enjeu politique. Et lorsqu'on parle que c'est un enjeu politique, ça veut dire que c'est de manière très claire intériorisé en termes de politique intérieure en Belgique, et que lorsqu'il y a un événement qui tourne autour de cet enjeu politique, il va de soi que ça puisse être sujet à polémique. Sujet à polémique avec ici en Belgique une vision communautaire, c'est-à-dire que l'on a deux visions, une vision communautaire, c'est-à-dire une vision plus flamande incarnée pendant tout un temps par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Karel De Gucht, et il y a une vision, on va dire, plus francophone, qui a été incarnée aussi pendant longtemps par l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était Louis Michel.
Professeur Bokkabamba, comment se voyez-vous ces relations RDC-Belgique dans l'avenir?
Dans l'avenir, il semble qu'il y a un élément indispensable qui doit être fait avant toute chose, et malheureusement, le cinquantenaire aurait pu être à ce moment de pouvoir arriver à avoir ces deux visions communes. C'est-à-dire qu'il est important ici, entre les deux pays, que l'on puisse révisiter un peu l'histoire, qu'on puisse révisiter l'histoire, qu'on puisse réécrire l'histoire entre les deux pays pour arriver à avoir une vision commune. Tout en faisant indispensable de faire cette étape préalable et à espérer avoir donc des partenariats clairs entre les deux pays.
Je vous remercie.
Merci aussi.
Monsieur l'ambassadeur, vous venez de suivre l'analyse faite par le professeur Bob Kabamba. Il est professeur à l'université de Liège en Belgique. Pour lui, la crise a commencé même au lendemain de l'indépendance. Si je vous demandais à vous aujourd'hui comment se présentent les relations entre la RDC et la Belgique, que me diriez-vous, monsieur l'ambassadeur?
Je citerai le président Kabila qui a dit clairement à l'occasion de mon arrivée ici que les relations étaient au beau fixe. Et donc je crois que dans les relations, il vaut toujours mieux souligner les aspects positifs, et je pense qu'à ce stade, il est clair que aussi bien le Congo que la Belgique souhaitent des relations au beau fixe sans incident. Si je peux me permettre simplement, François Kabama disait qu'il y avait plus de bas que de haut. Mon optimisme est qu'il y a malgré tout plus de haut que de bas. Ce sont évidemment.
Qu'est-ce que vous faites dire ça?
Mais je dirais qu'on se souvient toujours des crises, mais entre chacune des crises, il y a quand même eu des longues périodes de coopération positive entre nos deux pays. Et je pense que c'est ça que les gens doivent retenir, plutôt que de se concentrer sur des brèves crises comme nous en avons eu. Tout le monde les connaît, mais je pense que sur la durée de 50 ans, le nombre d'années de franches et bonnes coopérations ont été bien plus nombreuses que les brèves intermèdes de crise.
Est-ce que ces coopérations sont sincères, monsieur l'ambassadeur?
Évidemment qu'elles sont sincères. Vous ne pourriez tout de même pas suspecter que ce soit le Congo ou la Belgique de ne pas entretenir des relations d'État à État fondées sur l'amitié, le respect de la souveraineté. Et donc cette coopération est fondamentalement sincère. Elle trouve son origine dans la période coloniale, avec un souhait réel de la Belgique de reconnaître la souveraineté et d'être en appui de l'évolution congolaise.
Monsieur l'ambassadeur, par deux fois, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, Karel De Gucht, s'est attaqué à la gestion de la RDC par ses dirigeants. Il a évoqué le manque de transparence dans l'exploitation des ressources minières congolaises en dénonçant la corruption. Ses discours étaient lus publiquement et avaient choqué les autorités congolaises. Depuis ces déclarations, est-ce que vous avez constaté un changement dans l'agir des acteurs politiques congolais?
Mais il est évident que si nous prenons l'histoire congolaise au courant des 10 dernières années, je prends toujours comme point de départ les accords de Sun City, je crois que nous constatons une lente évolution indéniablement positive. Il faut reconnaître que nous venons d'assez loin, puisque le Congo a eu connu des années très très difficiles, des années, je dirais, juste avant la transition et la transition, qui ont nécessité une mise à jour des institutions politiques et économiques. Et on dit souvent « Rome n'a pas été fait en un jour, le Congo ne se redressera pas en un jour ». Mais je pense qu'on a tout avantage d'essayer toujours de lire et de voir les éléments positifs dans une évolution, plutôt que de se concentrer systématiquement et négativement sur les aspects négatifs. Je pense que les Congolais sont suffisamment conscients eux-mêmes des faiblesses
possible de la situation actuelle sans devoir avoir des gens à l'extérieur de le répéter tous les jours. Les Congolais sont des citoyens intelligents qui connaissent les faiblesses et laissons leur le soin d'apporter, je dirais, la critique nécessaire. Il n'est pas toujours le bon ton que ce soit l'étranger qui le fasse d'une façon, je dirais, un peu plus ostentatoire que nécessaire.
Monsieur l'ambassadeur, l'ancien ministre des Affaires étrangères ne s'est pas limité là. Il a aussi mis en cause l'efficacité de l'aide européenne envoyée en RDC. Dans ses propos, Karel De Gucht a notamment qualifié devant les parlements européens et les gens congolais des partenaires inappropriés. C'est quand même trop fort comme propos.
Je n'ai pas, n'essayez pas de me faire contredire ce qu'un ministre a dit. Il était mon ministre des Affaires étrangères. Je crois aussi que plutôt que de toujours revenir sur certaines déclarations, on pourrait aussi citer des déclarations extrêmement positives que le ministre Louis Michel faisait régulièrement.
Lesquelles, par exemple ?
Mais c'est là, je crois, que vous aviez vous-même cité qu'il y a eu le souhait de tout temps d'avoir une coopération sincère. Je crois que c'était le souhait aussi de M. Dupuis d'avoir une coopération sincère. Mais comme, vous savez, on le disait, j'entendais encore récemment un ministre congolais dire aussi, on peut toujours parler d'un verre à moitié plein ou d'un verre à moitié vide. Et je crois que dans l'histoire des relations, il y a des gens qui ont toujours essayé de présenter le verre à moitié vide et d'autres le verre à moitié plein. La vérité se trouve quelque part au milieu et je pense que pour la population, pour les relations, nous avons avantage toujours à développer les aspects positifs d'une coopération indéniablement positive. Même, et là je reconnais, si nous prenons le bilan global de l'aide, de la coopération au développement sur les dernières 50 années, qu'elle soit bilatérale, qu'elle soit multilatérale ou qu'elle soit d'autres pays, le bilan n'est pas toujours positif puisque nous n'avons pas pu constater une amélioration substantielle du sort des citoyens congolais. Et donc, soyons assez francs, et du côté congolais et du côté international, dont la Belgique, de reconnaître aussi un certain nombre de services dans la coopération internationale.
Et monsieur l'ambassadeur, pourquoi ces répétitions des crises? Il y a une crise, on essaie de régler la crise, une autre crise surgit, on la règle, une autre surgit. Pourquoi, selon vous, ces répétitions des crises?
Mais disons, je ne parle pas toujours de répétitions, il y a eu quelques crises profondes, mais je pense qu'un des éléments essentiels...
Deux crises, déjà, ça fait beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Non, ça ne fait pas beaucoup sur 50 ans. Je ne vais pas vous interroger sur votre vie familiale, mais peut-être que vous avez des crises beaucoup plus nombreuses dans une vie familiale, elles sont peut-être hebdomadaires ou mensuelles, donc n'exagérons pas, mais elles ont toujours été d'une certaine gravité du fait d'un élément de récupération dans la politique intérieure de chaque pays. C'est ça, je crois, qui a toujours accentué. Il y a de part et d'autre un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas de bonnes relations entre la Belgique et le Congo. Et cela, on peut citer plusieurs raisons pour cela. Pourquoi est-ce que la Belgique a pris-elle sur elle le soin d'avoir une aussi grande colonie, etc. Et pourquoi est-ce que le Congo a-t-il eu comme unique puissance dominatrice un tout petit pays? Je crois qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut expliquer une certaine tension, mais essayons de voir les choses positivement et dire globalement la coopération entre la Belgique et le Congo au courant des dernières 50 années a été positive.
Si je vous comprends bien, il y a des tireurs de ficelles qui ne veulent pas voir la RDC et la Belgique coopérer normalement, bien coopérer.
Je suis absolument convaincu qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas. Certaines personnes en Belgique ne pardonnent pas à la Belgique d'avoir été une puissance coloniale et certaines personnes au Congo n'acceptent pas d'avoir eu comme puissance coloniale le plus petit pays européen, pour ainsi dire, puisque la plupart des colonies étaient colonisées par des pays plus grands que la Belgique.
Vous connaissez quelques-unes de ces personnes? Quelques-unes de ces personnes?
N'attendez jamais un ambassadeur et qu'il cite des gens dans une interview. Ce n'est pas ça qui est important. Il ne faut pas blesser certaines personnes. Ce qui compte, c'est de citer les gens qui contribuent positivement aux relations entre deux pays et pas toujours essayer de voir ceux qui parlent d'une façon moins positive. Bien qu'il ne faut pas toujours non plus croire que les gens qui disent certaines choses ont des mauvaises intentions. Beaucoup de gens ont des bonnes intentions dans leurs déclarations, mais il est ensuite toujours lieu de tenir compte comment est-ce que de telles déclarations sont perçues par l'autre personne. Donc il y a un élément de déclaration et un élément de perception. Et celui qui parle doit avant tout aussi tenir compte de la façon dont ce qu'il dit sera perçu par l'autre. Vous savez très bien qu'à un certain moment, vous pouvez dire quelque chose, que vous prenez pour quelque chose de totalement innocent, et vous pouvez, d'un autre côté, blesser cette personne par une phrase mal construite, une intention mal développée.
Monsieur l'ambassadeur, certains observateurs voient pour cause dans toutes ces crises des tensions personnelles entre les responsables politiques. D'autres trouvent que les ministres belges donnent des leçons de bonne conduite aux dirigeants du gouvernement congolais.
C'est évident, et là je parle comme diplomate, un homme politique a comme ambition première de rester au pouvoir et d'être réélu. C'est, je dirais, une appropriation propre de l'homme politique, c'est de vouloir être réélu. Et certains hommes politiques, je dirais, peuvent employer ou faire un mauvais usage à des fins politiques intérieures ou personnelles. Donc je pense que c'est là une des raisons, c'est qu'on n'a pas parvenu toujours à placer, je dirais, l'idéal des bonnes relations à l'avant-plan. Certains pourraient être réélus, que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo, ont avantage à jouer une carte qui est moins positive que l'état général des relations.
Monsieur l'ambassadeur, nous restons toujours dans la crise, hein, RDC-Belgique. Dans l'histoire des relations entre ces deux pays, nous avons connu deux moments où les responsables belges ont dit haut et fort que avant, ça sera après.
Et oui, mais il faut replacer ces déclarations dans l'esprit du temps. Et je pense qu'il y a lieu de reconnaître que ce sont des déclarations malheureuses. Vous ne pouvez pas dire dans certaines situations avant et après, c'est la même chose, quand il y a eu un moment aussi crucial qui est celui de l'accession du Congo à l'indépendance. Parce qu'ici, je tiens à souligner aussi un débat fondamental, donc c'est le Congo avant tout qui a accédé à son indépendance, beaucoup plus que la Belgique qui a donné l'indépendance. C'était un geste de maturité politique qui était fort explicable dans le contexte général de 1960, mais c'est la vraie signification de l'accès de l'indépendance du Congo, c'est le Congo, les forces politiques congolaises, les différents partis politiques congolais, les acteurs politiques de 1960, qui ont clairement défini leur souhait d'accéder à cette indépendance. Et la Belgique a répondu à ce souhait d'accession, et là on peut dire, l'a-t-elle fait généreusement, l'a-t-elle fait facilement, l'a-t-elle fait avec réticence, c'est autre chose. Mais le fait indéniable, et je crois que cela doit être répété au moment du 50e anniversaire, c'est les forces politiques congolaises s'inscrivant dans un mouvement historique qui ont clairement demandé à la Belgique, nous souhaitons accéder à l'indépendance, et la Belgique l'a rapidement, certains diront trop rapidement, et je n'ai même pas concédé, là, généreusement, dans un esprit d'amitié, accordé cette indépendance.
Est-ce que la Belgique était prête à accéder à cette indépendance à la RDC, monsieur l'ambassadeur?
Mais disons, quand vous étudiez l'histoire, évidemment, l'approche coloniale belge était une approche de longue durée. Il est indéniable que nous avions, et peut-être contrairement à d'autres pays, nous avions une approche coloniale qui partait de la base pour lentement monter vers le haut. Et donc la Belgique a tout d'abord donné beaucoup plus d'importance à l'éducation primaire, aux soins médicaux primaires, etc., quitte à améliorer cette coopération, mais sur une durée beaucoup plus longue au sommet. Et là, je reconnais qu'en 1960, la Belgique n'avait formé que 4 universités, ce qui était totalement insuffisant. Mais rappelez-vous aussi toujours que quelques années avant, en Belgique, un plan avait été promu et connu sous le nom de plan Van Bilzen, qui parlait d'une indépendance sur 30 ans, et que tout le monde trouvait ces 30 ans comme révolutionnaire et trop court pour certains. Et subitement, entre ce que je dis toujours, la date du 4 janvier 1959, lorsqu'il y a eu les premiers troubles ici à Kinshasa, et le 30 juin, on a parcouru donc en 18 mois tout le processus d'indépendance du Congo. Et donc c'est un raccourci d'indépendance qui est extrêmement bref et qui explique, et ça le professeur Kabamba l'a aussi dit, c'est évidemment c'est une des raisons des difficultés post-indépendance.
Décomplexer les relations, prendre beaucoup d'initiatives, élargir le cercle des relations, tels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte pour permettre une bonne évolution des relations entre la Belgique et la RDC. Ces propos émanent du député national et membre de la commission politique, administrative et judiciaire à l'Assemblée nationale, Christophe Lutundula. Il a été joint au téléphone par Dinaté.
Les relations entre notre pays et le Royaume de Belgique, ancienne puissance coloniale, au cours de ces 50 dernières années, ont évolué à temps de scie, avec des hauts et des bas, des crises plus ou moins graves, mais aussi avec des moments de partage. Il faut le reconnaître.
S'il y a des choses qui n'ont pas marché, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela dans l'avenir?
Moi, je crois que la première chose, c'est un effort, je dirais, culturel. Décomplexer nos relations. La deuxième chose, nous devons prendre des initiatives transversales et des initiatives qui impliqueront non seulement les officiels, mais aussi tout le Congolais comme société civile. Et enfin, je pense que nous devrions nous donner des garanties mutuelles. Plus précisément, nous devons créer un climat d'investissement, un climat de sécurité physique et juridique qui puisse les attirer.
Monsieur l'ambassadeur, j'ai bien vu hocher la tête pendant que le son de l'honorable Lutundula passait. Vous êtes d'accord avec lui?
Totalement et 100% d'accord avec lui. Je crois qu'il y a une approche extrêmement positive et constructive que nous retrouvons d'ailleurs dans la déclaration que nos deux gouvernements ont signée le 24 janvier 2009, dans laquelle nous retrouvons un certain nombre de principes qui sont le dialogue franc, ouvert et permanent. Deuxièmement, un respect de la souveraineté sur pied d'égalité et des relations sur base de réciprocité et mutuellement avantageuses. Et donc, je crois que c'est exactement ce que l'honorable Lutundula a dit, c'est recréer entre nous une confiance sur pied d'égalité pour véritablement rapprocher mais tout le monde, pas seulement les institutions, mais chacun des citoyens vivant au Congo et en Belgique.
Il a parlé aussi de décomplexer les relations. Le complexe se trouve de quel côté?
Mais je dirais, et j'ai répondu très franchement, les complexes se trouvent des deux côtés. Il y a indéniablement eu, du côté belge, pour chez certaines personnes, des complexes, c'est une minorité, laissons dire les choses franchement, peut-être de supériorité et même peut-être d'arrogance, mais aussi il y a eu un complexe peut-être chez certains d'infériorité, là j'en appelle aux Congolais aussi, d'assumer pleinement leur responsabilité d'indépendance. Il faut aussi que le Congolais assume l'indépendance dans son entièreté. Il ne peut pas continuer à regarder la communauté internationale comme un pourvoyeur de fonds éternels. Le Congo est suffisamment riche pour pouvoir se suffire à elle-même. Et là, je suis aussi avec M. Lutundula, l'honorable Lutundula, d'accord. Les investissements étrangers, mais aussi nationaux, dans le développement d'une industrie productive, sont à mon avis un élément clé pour le développement du Congo dans les années à venir.
Monsieur l'ambassadeur, je vous dis deux réactions auxquelles vous allez répondre. C'est Florie Lissou-Lidou qui s'engage en province orientale. Le bilan diplomatique entre la Belgique et la RDC est peu performant 50 ans après l'indépendance, car l'instabilité du gouvernement belge s'est réduite des causes. Omar Kavota de Beni au nord Kivu, la Belgique est-elle satisfaite de la gouvernance et des dirigeants actuels congolais? De quoi se reproche-t-elle dans sa politique étrangère et coloniale vis-à-vis de la RDC?
Tout d'abord, je voudrais m'exprimer sur l'instabilité gouvernementale de la Belgique. Je crois qu'il est tout à fait normal dans un pays démocratique que vous ayez une certaine évolution et nous avons donc une succession de gouvernements qui n'ont pas toujours la même coloration puisque nous vivons toujours dans des gouvernements de cohabitation avec chaque fois, en ce qui concerne le Congo, une approche plus proactive ou une approche plus timide, réticente. Et je crois que là, je ne parlerai pas d'instabilité politique en Belgique, c'est la succession normale de gouvernements sortant d'élections régulières. Quant à la deuxième question, permettez-moi, il ne revient pas à un diplomate et même à un politique de porter continuellement le jugement quant aux dirigeants qui sont dans un pays. C'est ça la force d'une démocratie, c'est le citoyen congolais qui doit s'exprimer concernant ces dirigeants. À la diplomatie de veiller aux bonnes relations. Sauf instruction contraire de mon gouvernement, et c'est le cas de tous les diplomates sont faits pour développer des bonnes relations. Et la dernière chose qu'on attend d'un diplomate, c'est de s'immiscer continuellement dans les affaires intérieures d'un pays. Au contraire, il essaye d'expliquer l'évolution d'un pays à son gouvernement pour favoriser justement le développement de ponts entre les deux gouvernements pour favoriser la bonne entente.
La question d'Omar avait deux volets. Vous avez répondu au premier volet, mais le deuxième volet par rapport à ce que la Belgique se réponse quant à sa politique étrangère et coloniale vis-à-vis de la RDC.
Mais je crois que là, nous devrions tôt ou tard favoriser, je dirais, une sorte d'étude commune entre professeurs d'université congolais ou historiens congolais et historiens belges de réécrire ou d'écrire une histoire commune de la période coloniale. Je crois que ce serait extrêmement intéressant, aussi bien pour les étudiants congolais que pour les citoyens belges, d'écrire l'histoire de ces 52 ans, puisqu'on parle généralement, on sépare la période où Léopold II était seul maître à bord et avait la propriété entière du Congo entre 1885 et 1908, et ensuite la vraie période coloniale belgo-congolaise qui va de 1908 à 1960. La première période, c'est environ 25 ans, la deuxième, 50 ans, donc nous nous trouvons dans une phase historique où il y a eu 25 ans de règne personnel de Léopold II, 50 ans de colonie belge et 50 ans d'indépendance du Congo. Mais sur ces 50 ans entre les deux périodes de la colonie belge, je pense que nous aurons avantage de mettre les historiens sur une histoire commune avec ses aspects. Je commencerai par les aspects négatifs, mais il faut les lire dans l'esprit du temps. Il est sûr que beaucoup de choses ont été faites au Congo par la Belgique, mais souvent dans un esprit, d'une part, je dirais, de contrainte, même si l'idée fondamentale était le développement, mais d'autre part aussi, reconnaître les aspects positifs, et j'avais dit, la colonie congolaise était, à beaucoup différents aspects, assez ou meilleure que d'autres colonies environnantes. Le réseau d'infrastructures, le réseau médical était un des meilleurs d'Afrique, si pas le meilleur d'Afrique en 1960.
50 ans après, quelles sont les priorités de la coopération entre la RDC et la Belgique? Pour le sénateur Ramazani Baya, ancien ambassadeur du Zaïre en France, il faudrait que l'on considère plus les intérêts qui unissent la Belgique et la RDC dans les relations entre les deux pays. Raymond Ramazani Baya évoque aussi ce qu'il estime être les priorités dans ces relations. Il a été joint une fois de plus par Guy Maté.
Je crois que la première des choses qu'on peut dire, c'est que la Belgique se situe toujours dans la première position de nos partenaires traditionnels. Se trouve certainement au niveau des préoccupations africaines, la RDC se trouve aussi en tête des préoccupations belges. Mais je crois qu'il faut d'abord arriver à stabiliser réellement nos relations. Il faut que la Belgique respecte les choix des Congolais et il faut que les Congos aussi acceptent la grande diversité politique, régionale, communautaire de la Belgique. La Belgique, tout en étant un petit pays, est un pays très complexe. Je pense que nous devrions aussi nous efforcer pour que les hommes d'affaires belges s'intéressent un peu plus qu'ils le font actuellement au Congo. J'ai dit tout à l'heure que leur présence économique serait beaucoup diminuée. Et je pense que nous aussi, s'intéresser mieux à la Belgique. Nous avons une communauté importante en Belgique.
Monsieur l'ambassadeur, la Belgique doit respecter les choix des Congolais. Le Congo, de son côté, doit accepter la diversité politique de la Belgique. Les hommes d'affaires belges doivent s'intéresser beaucoup plus à la RDC. De votre côté, quelles pourraient être les priorités dans ces relations RDC-Belgique?
Je crois, et je suis tout à fait d'accord avec le maire Ramazani qui connaît bien le problème, il y a lieu, je dirais, d'avoir une vision plus riche et plus totale de la coopération entre les deux pays. On voit trop souvent la coopération comme exclusivement une coopération de développement entre le ministre de la coopération régionale et internationale congolaise et le ministre de la coopération belge. Ce n'est qu'une infime partie, je dirais, d'une coopération beaucoup plus riche. En ce qui concerne cette coopération-là, les deux ministres vraiment maintenant ont défini très clairement les priorités pour les années à venir, ce qu'on appelle le programme indicatif de coopération, où il y a d'abord un volet des enclavements ruraux, ça veut dire on favorise la rénovation des déserts ruraux et la construction de bacs. Deux, l'agriculture avec l'amélioration des filières semencières. Et troisièmement aussi, tout ce qui est éducation, principalement l'éducation des écoles techniques et professionnelles. Vous allez me dire, c'est pas tout, mais il faut faire des choix dans la vie. Le Congo se trouve à la vie de grands défis. Si nous voulons avoir un certain impact sur le développement du Congo, un pays, chaque pays pour ainsi dire, doit se limiter dans sa coopération, je dirais, à des secteurs privilégiés. Parce que les défis, vu l'immensité du Congo, vu la poussée démographique, fait qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Deuxièmement, et là je rejoins, ça a été dit déjà tantôt, je crois qu'un des aspects véritablement où nous devons travailler plus, c'est les investissements. C'est indéniable que nous devons favoriser l'éclosion d'une industrie locale beaucoup plus forte. Il n'est pas normal, et je le dis toujours, de voir l'importation d'un certain nombre de produits au Congo, tels les jus de fruits. Le Congo doit être capable de produire ses propres jus de fruits, et donc, je crois, où le Congo et où la Belgique doivent faire plus d'efforts, la Belgique doit renvoyer un certain nombre d'investisseurs qui ont plus d'audace et moins de timidité dans l'approche, et le Congo, je crois, peut faire un effort supplémentaire quant à la protection des investisseurs, véritablement favoriser les investisseurs dans la mesure où c'est eux qui créent l'emploi, c'est eux qui réellement seront l'avenir du Congo, beaucoup plus que la coopération au développement, qui, qu'on le veuille ou non, essayent simplement de remédier un certain nombre de maux. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un saut qualitatif. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que tout le monde est d'accord que c'est un des éléments clés dans les années à venir, de véritablement favoriser les investissements nationaux tout d'abord, parce que je tiens à dire que les Congolais de la diaspora doivent retrouver le chemin des investissements congolais, c'est aussi un élément essentiel. Des Congolais à l'étranger ont de l'argent, ils doivent retrouver dans leur propre pays des capacités d'investissement, doublées par des investissements internationaux, et essayer de plaider pour le retour d'un certain nombre de grandes firmes étrangères. J'en profite de le dire, ce n'est pas seulement des investissements belges, européens. Je crois que le Congo est ouvert à tous, mais doit faire un choix judicieux dans tous les investissements étrangers qui viennent ici pour développer. Et donc, nous n'avons aucun problème avec des investissements chinois, des investissements turcs, des investissements indiens. Le Congo est suffisamment grand pour accepter tout le monde. Il n'y a donc pas de lutte, je veux dire, entre un certain nombre de pays quant aux investissements.
Nous allons prendre votre réaction, monsieur l'ambassadeur. C'est Mungu Femi de Bunyan, province orientale. Et ceci, je vous pose à vous la question, quelle est aujourd'hui l'apport de la Belgique dans les relations belgo-congolaises et surtout en quoi celle-ci peut être profitable aux Congolais? Docteur Gary Wakigana Mikalano de Kindu Maniema, sa réaction est un peu longue. Nous, les Congolais de basse classe, ne voyons pas encore que les relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe, car nous avons remarqué plusieurs fois des tractations entre ces deux États allant même jusqu'à la fermeture des ambassades et des consulats suite aux déclarations des uns et des autres. Nous avons comme l'impression que le Royaume de Belgique hésite encore, notamment sur l'octroi des bourses d'études congolais, mais surtout sur la reprise de la coopération économique, par exemple, la relance des grands projets de développement et l'appui au secteur privé. Je constate que beaucoup des sociétés qui jadis étaient gérées par la Belgique sont toujours fermées, telles que le cas de la Somenki, qui donnait un souffle aux populations du sud, nord, Kivu et du Maniema. Est-ce que monsieur l'ambassadeur peut nous dire si cela est dans les priorités de son pays?
Les relations belgo-congolais sont très riches et il faut essayer de diversifier un petit peu l'approche. C'est indéniablement que voir la coopération de la Belgique et du Congo exclusivement au travers de la coopération au développement est une vision beaucoup trop limitée. Je crois que la vraie richesse des relations entre nos deux pays, c'est aussi la multiplication des relations interpersonnelles. Donc je crois qu'il y a des dizaines et je dirais même des centaines de niveaux où une coopération peut s'établir. Je le présente souvent sous le mot jumelage. Je dirais que la vraie force de l'avenir, quant à l'avenir de nos relations, sera dans cette relation beaucoup plus personnalisée entre des institutions et des individus congolais et belges. Ça veut dire que, au travers des moyens modernes de technologie, que ce soit Internet, chacun a la possibilité d'être en contact avec d'autres personnes dans le monde, et plus spécialement entre le Congo et la Belgique. Et donc, nous devons veiller à multiplier ces genres de contacts, qui doivent être d'un docteur à un docteur, d'un ingénieur à un ingénieur, mais aussi d'une ville à une ville, d'une institution à une institution, d'une faculté université à une faculté université. Et c'est là, je crois, la vraie richesse des relations. Ce n'est donc pas toujours regarder cette sorte de coopération internationale. Combien de millions la Belgique donne-t-elle par an au Congo? Ce sera toujours une route sur une plaque extrêmement chaude, parce que le Congo est trop grand que pour espérer de la part de la Belgique une solution à tous ces problèmes. Le deuxième élément que vous avez cité, c'est évidemment, mais où concentrer cette aide? Et là, c'est un débat sans fin, parce qu'en fait, chaque Congolais auquel je parle, en fait, a toujours la solution du développement en le resituant dans le cadre géographique ou local de sa propre priorité. Si vous allez à Kisangani, les gens de Kisangani vont vous dire, mais enfin, la solution de la coopération, c'est la construction d'une deuxième centrale de Tchopo. Vous allez dans Maniema, ils vont vous donner quelle priorité, mais sont toujours géographiquement liés aux besoins immédiats de la personne à laquelle vous parlez. Et donc, c'est là la difficulté, et c'est un choix qui est extrêmement difficile à faire et qui sera toujours arbitraire.
Est-ce que ce n'est pas un choix à faire avec les autorités congolaises qui doivent vous dire ce qui est prioritaire?
Mais depuis que je suis ici, et j'en ai été personnellement témoin, je peux vous dire que le dernier programme indicatif de coopération, ce que nous appelons le PIC 2010-2013, est vraiment la résultante d'un dialogue franc, permanent entre les deux ministres de la coopération. Ils se sont eux-mêmes, je dirais, enfermés, je dirais, dans un bureau pendant près de 2 heures pour définir entre eux quels étaient les secteurs prioritaires. Et donc, je crois que le programme indicatif de coopération actuel est la résultante d'un dialogue entre deux instances sur pied d'égalité dans le respect de la souveraineté. Ça veut dire que on a entendu le ministre Bamba dire probablement voilà mes souhaits, et le ministre belge répondre là je peux faire quelque chose, là probablement je ne peux rien faire. Ils se sont mis d'accord sur les trois axes de coopération que je vous ai cités et qui sont bons en soi, mais je reconnais insuffisants. Certains ont immédiatement dit par après, mais pourquoi est-ce que le secteur médical a été un peu négligé alors que c'était un des secteurs forts de la coopération belge? Et ça, c'est la résultante du choix politique fait par les deux gouvernements. Mais ce que je peux vous garantir, et vous pouvez interroger aussi bien ministre Bana que ministre Sarmissel, ils l'ont fait dans le cadre d'un dialogue entre deux ministres qui s'appréciaient et qui sont pieds d'égalité et dans un esprit, je dirais, de confiance, parce que c'est là que je voudrais revenir un peu plus, c'est recréer la confiance entre les Belges et les Congolais. Donc, oublions les. Tous les débuts de votre interview étaient plutôt tournés vers les crises. Essayons maintenant de rétablir, au travers d'une relation plus, avec de plus grandes maturités, une sorte de confiance et de complicité entre les ministres congolais, les ministres belges, les citoyens congolais et les citoyens belges, etc. Et donc c'est ça véritablement qui créera la compréhension de ce qu'on fait, tout en reconnaissant, je dirais, un certain nombre de lacunes. Le dernier interlocuteur citait le nombre de bourses. Il y en a, mais si on doit donner le nombre de bourses souhaitées par le nombre de Congolais, je peux vous garantir qu'il faudra 10 millions de bourses pour aller à l'étranger. Ce qui n'est pas la solution. Vous avez des professeurs d'université extrêmement capables, et c'est pas tellement bon non plus d'expatrier tous les Congolais. Il vaut beaucoup mieux leur donner une éducation, qu'elle soit primaire, secondaire et universitaire, ici au Congo, plutôt que leur donner des bourses pour l'étranger. Alors nous limitons les bourses plutôt au troisième cycle universitaire, où un certain nombre de Congolais ont besoin vraiment de spécialisations qui sont de toute grande importance sur base de technologies que peut-être le Congo n'a absolument pas dans ses universités.
Alors, monsieur l'ambassadeur, les forces et faiblesses de cette coopération à RDC Belgique, quelles sont selon vous les forces de cette coopération? Quelles peuvent être les forces de cette coopération?
Vous savez, la façon dont vous posez la question, c'est en appeler en fait un élément d'autosatisfaction belge pour dire nous avons bien fait les choses. Mais je ne préfère pas le dire. La force de la coopération entre la Belgique et le Congo, c'est qu'au bout de 50 ans, elle reste un élément essentiel dans nos relations et un élément essentiel de partage. Je crois que c'est un des interlocuteurs qui a aussi employé le mot partage. Je crois que ça c'est très important. Donc, n'essayons pas de dire comme nous avons bien fait. Non, il y a, je dirais, trop d'éléments, pas d'insatisfaction, mais où on aurait pu mieux faire et où nous aurions dû montrer plus de continuité. Je suis toujours frappé du fait que il y a une tendance peut-être trop facile de chaque ministre belge et congolais de changer le secteur de coopération. Chacun veut marquer la coopération entre les deux pays de son sceau personnel en choisissant un secteur. Pourquoi ne parvenons-nous pas, sur une période de 10 ans, d'essayer de faire la même chose pour, je dirais, renforcer la pérennité et l'effort pour que, tôt ou tard, le Congo n'ait plus besoin de cette forme de coopération. C'est-à-dire faire du Congo des formes où ils sont autosuffisants et où ils peuvent se développer eux-mêmes sans faire appel à l'étranger.
Certains observateurs pensent que la coopération belgo-congolaise n'est pas sincère. La Belgique profite beaucoup de la RDC. Comment vous répondez à ces personnes, monsieur l'ambassadeur?
Vous savez, c'est tous les débats. Je crois que c'est un débat presque colonial. C'est encore toujours l'image que la Belgique a pillé le Congo. Je crois que c'est une image qui est fausse dans la mesure. C'est évident que la Belgique a exploité dans les limites de possibilités, je dirais, un certain nombre de ressources minières dans la période coloniale. Mais n'oublions pas que depuis lors, je dirais, le nombre de tonnes de cuivre, de cobalt, de fuites de pétrole qui sont sorties sont de loin supérieures, je dirais, aux quantités que la Belgique a exploitées d'une certaine façon, sur lesquelles elle a profité. Mais n'oublions pas non plus qu'elle a investi énormément au Congo. Vous ne faites pas un réseau de soins de santé primaire, vous ne faites pas un réseau d'éducation primaire sans que ça le coûte. En 1960, en fait, un de nos problèmes était que le Congo coûtait trop cher à la Belgique. Mais il est un fait que dans l'imaginaire populaire, on a l'impression que la Belgique a véritablement été la plus grande force de prédation au Congo. Congo. Je pense qu'il y a eu de bien plus grandes forces de prédation post-indépendance qu'avant l'indépendance.
Diplomatie et coopération bilatérale RDC-Belgique depuis 1960 à nos jours. Quel bilan dressé des relations RDC-Belgique 50 ans après? C'est notre thème de ce soir. Dialogue entre Congolais reçoit en invité spécial l'ambassadeur de Belgique en RDC, Dominique Costre. Quelles pourraient être les perspectives des relations entre les deux pays? Si nous ignorons le poids de l'histoire, nous faussons les rapports diplomatiques entre la Belgique et la RDC. Tel est le point de vue de l'ancien diplomate à Paris et à Bruxelles et ancien ambassadeur du Zaïre au Rwanda. Pour André Alain Atindou, les futures relations entre la RDC et la Belgique devraient être faites des maturités et d'intérêts bien compris de nos deux peuples et de nos deux États. André Alain Atindou répond au micro de Guy Maté.
Les relations depuis le départ jusqu'à ce jour ont été marquées par le poids de l'histoire que chacun des pays refusait à assumer. Eh bien, aujourd'hui, l'arrivée du roi est un message que la Belgique assume son passé au Congo et c'est au Congolais d'assumer aussi ce passé pour que ce passé ne soit pas un handicap pour le développement de nos relations futures. Bon, on peut considérer que sur le plan diplomatique, nous avons une certaine maturité historique. Alors, il faut faire l'association de ce moment de conscience historique, de la nécessité de cheminer ensemble, d'assumer ensemble le poids de l'histoire, eh bien pour créer une diplomatie nouvelle, mûre, et des relations entre les États, et envisager l'avenir en commun. Pourquoi on ne créerait pas, enfin, aujourd'hui, une communauté belgo-congolo-rwando-burundaise?
Monsieur l'ambassadeur, réaction?
Extrêmement positif. Je crois qu'il a marqué de toute son expérience, je dirais ce qu'il a dit. Je rejoins tout à fait, c'est un mot moi-même que j'emploie très souvent, il est temps qu'il y ait une plus grande maturité dans nos relations. Je crois que nous devons, et il l'a dit, de la façon dans laquelle il devait faire, c'était « assumons l'histoire ». Quelque part, je pense que c'est la deuxième phrase de l'hymne national, « unis par le sort ». Unis par le sort, c'est ce qu'a fait le Congo, et qui a fait aussi qu'il y aura entre nos deux pays des liens qui seront toujours spéciaux. Et donc il faut assumer l'histoire dans son passé. Et je crois que, comme il l'a dit, la venue du roi, et là je fais un petit rectificatif, c'est Albert II et pas Albert Ier comme il a été dit au début, c'est une reconnaissance tout d'abord de nos liens historiques. Les deux pays reconnaissent qu'ils ont des liens particuliers au travers de l'histoire. C'est la reconnaissance, et je dirais, c'est souligner que les relations actuelles sont très bonnes, mais elles sont très bonnes dans quelle perspective? C'est une perspective d'avenir. Donc, au travers de la venue du roi Albert II, je crois que nous retrouvons un moment historique, politique et symbolique très fort qui réconcilie le passé, le présent et l'avenir dans un esprit, comme disait l'ambassadeur, dans un esprit de maturité. Et la maturité doit s'exprimer comment? Dans une plus grande stabilité. Toute votre interview au début était toujours dans de ci, dans de ci. Essayons d'entrer dans une période de stabilité où les deux pays, dans un esprit, et les mots étaient employés beaucoup plus, de compréhension mutuelle, se mettent dans une position où chacun a gagné, je dirais, de ses relations. Donc qu'elles soient mutuellement avantageuses et mutuellement constructives. La Belgique a énormément à gagner de rester en contact étroit avec le Congo, et le Congo a probablement aussi encore à gagner à rester dans un état de bonne relation avec la Belgique. Et c'est ça, je crois, qui doit continuer à marquer nos relations.
Monsieur l'ambassadeur, j'ai une présence de la force onusienne sur le sol congolais. La MONUC, qui va d'ailleurs changer de mandat pour devenir MONUSCO, cette nouvelle mission sera une mission de stabilisation du Congo. Quel rôle la Belgique peut jouer dans la stabilisation du Congo?
La Belgique s'inscrit très très clairement actuellement dans un esprit d'appui de la communauté internationale. Plus un esprit où la communauté internationale dicte ce que doit faire le Congo, et je l'ai dit, l'évolution politique des dernières années, c'est qu'il revient au Congo de définir elle-même sa politique. Mais là, il est possible, il est probable que la communauté internationale puisse encore aider le Congo à se stabiliser. Je pense que l'évolution des derniers mois, je pense que depuis janvier 2009, où il y a eu le rapprochement entre le Congo et le Rwanda, la situation sécuritaire et de stabilité s'est améliorée. Il reste malgré tout par-ci par-là des problèmes, vous les connaissez, des endroits où la stabilité n'est pas assurée. Mais donc c'est en appui des forces congolaises, notamment donc tout ce qui est l'armée et la police et la justice, n'oublions pas, Et là, peut-être, la communauté internationale peut essayer de réformer ce secteur d'une façon positive pour que l'ordre et la loi puissent régner partout au Congo. C'est le souhait de tout le monde de voir le gouvernement congolais avoir un contrôle normal de l'entièreté de son territoire. Et c'est toujours actuellement en appui des décisions que prendra le gouvernement congolais.
Monsieur l'ambassadeur, parlons du 50e, vous avez annoncé l'arrivée du couple royal de ce lundi en RDC. Vous avez même déclaré que cette présence a une portée symbolique et politique. Comment cela serait un peu plus clair et précis par rapport à cela?
Mais je dirais que c'est un événement assez exceptionnel. Il y a 25 ans que le roi Bébé n'est plus venu ici. La première signification, et reconnaissons-la, c'est le courage qu'a eu le président Kabila d'inviter dans son puissance coloniale. Je pense que c'est un des rares pays au monde où l'ancienne puissance coloniale est présente à l'occasion du 50e anniversaire. Je prends une différence et je ne juge pas. Je constate que, et je reconnais, je sais pourquoi, du côté français, on invite tous les chefs d'État des anciennes colonies à Paris. Le Congo invite l'ancienne puissance coloniale à venir au Congo. La différence est notoire, je dirais. C'est nous qui venons chez vous, et ce n'est plus l'ancienne puissance coloniale qui rappelle le chef d'État à venir à Bruxelles. Je crois que c'est déjà ça. Et pour quant à la Belgique, elle a répondu positivement à cette invitation. C'est un geste aussi de reconnaissance de la grandeur et de l'importance que le Congo a aux yeux de la Belgique. Mais au travers de la Belgique, je constate que tous mes collègues diplomatiques disent « Quoi ? Le roi vient ?» C'est que le Congo reste important. Et donc, tous les pays sont frappés de la présence du roi. Que ce soit russe, chinois, américain, ils prennent tous note que le roi de Belgique vient ici et replace le Congo pendant quelques jours, mais en espérant que ce soit plus long, au centre d'un intérêt mondial. Et c'est ça, je crois, la vraie signification. La présence conjointe donc, du chef d'État belge et du chef d'État congolais est le signe d'une amitié tangible et durable.
Est-ce qu'on peut espérer qu'après le passage du couple royal, on peut espérer à la relance effective de la coopération RDC-Belgique?
Disons, la coopération depuis la dernière crise est en état permanente d'amélioration. Donc je ne crois pas non plus qu'il faille créer de faux espoirs. La coopération est une volonté politique qui se développe au travers des deux gouvernements d'une façon continue. Ce qui est plus important, c'est cette symbolique, et j'ai bien dit symbolique politique, qui marque que les deux pays ont confiance l'un dans l'autre et souhaitent continuer à développer. Mais comme vous dites, ce n'est pas toujours au travers de cette coopération au développement direct d'aide annuelle, c'est beaucoup plus que les Belges retrouvent le chemin du Congo et les Congolais trouvent le chemin en Belgique dans le cadre d'investissements, de jumelage, d'aide mutuelle entre citoyens qui s'apprécient. C'est ça que je trouve le plus remarquable. Un Congolais à Bruxelles sera toujours plus que quelque autre étranger. Et un Belge ici, j'espère, gardera toujours aux yeux des Congolais une valeur symbolique plus grande que la présence d'un quelconque étranger dans ce triopère, que je ne voudrais pas désavantager. Mais que le Congolais en vous dit, c'est un Belge, c'est autre chose qu'un autre étranger.
Monsieur l'ambassadeur, dans les tout prochains jours, il y aura une réunion du G20. Quelle est la contribution de la Belgique à l'annulation de la dette de la RDC? Et il faut dire qu'il y a certaines dettes qui ont été contractées par des Belges.
Je crois tout d'abord, à mon plus grand regret, la Belgique n'est pas membre du G20. Donc le G20 est composé des 8 grandes puissances traditionnelles auxquelles on a ajouter un certain nombre de pays en voie d'émergence. Et malheureusement, donc, la Belgique étant trop petite, mais l'Union européenne y est présente, n'est pas personnellement présente. Mais je peux vous garantir, et je le dis avec extrêmement de clarté, la Belgique, avec d'autres pays européens, et je cite la France, le Royaume-Uni, font tout en ce moment-ci pour aider le Congo à atteindre le point d'achèvement. Nous ne pouvons pas l'atteindre seul. Le Congo a, sous l'égide du Fonds monétaire international, fait un certain nombre d'efforts et nous pensons que le moment est opportun pour que le Congo reçoive une grande annulation de sa dette, 10 milliards sur les 13 milliards, c'est une somme substantielle. Ceci étant dit, il ne faut pas croire qu'avec ça, tout est résolu. Au contraire, parce que, premièrement, le Congo se devra à l'avenir de continuer une gestion de rigueur économique très grande, et deuxièmement, annuler une dette n'enrichit pas directement les citoyens congolais. La seule chose, je vous aurai quelques paiements en moins à faire au Fonds monétaire, mais ce que vous devez surtout faire, c'est attirer de nouveaux capitaux. Et c'est au travers de cette annulation de dette qu'on peut espérer que recréer un élément de confiance dans l'économie congolaise, qui sera bâti clairement sur deux piliers, la continuation de la rigueur budgétaire financière au Congo et un apport de capitaux frais de la part de l'étranger.
Monsieur l'ambassadeur, la famille de Fassé-Témeré Lumumba a promis de porter plainte contre la Belgique pour sa présumée implication dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Lumumba. Vous êtes au courant?
Nous sommes au courant, bien sûr.
Et quelle est la réaction de la Belgique?
La Belgique n'a aucune réaction à donner, puisque nous connaissons un système de séparation très clair entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et le gouvernement ne se prononce jamais sur des plaintes déposées devant un tribunal. Il revient à la justice belge de se prononcer. La justice suivra son cours. Elle verra d'abord si la plainte est recevable, et ensuite ayez confiance dans la justice belge. Si la justice belge se doit de prononcer quelque chose, elle le fera. Je rappelle tout de même qu'il y a eu entre-temps, depuis 1960, il y a une commission parlementaire en Belgique qui a étudié tout le cas, je dirais, de l'assassinat de Lumumba, et où, du côté belge, la vérité a été faite dans la mesure du possible sur ce qui s'est passé. Et c'était là, je crois, entre les deux États, ce qui était le plus important, et vous, Michel, y a joué un certain rôle aussi en tirant les conclusions, que nous avons assumé ce qu'il y avait à assumer. J'ai grande nuance, je crois qu'il est très clairement établi que le gouvernement belge n'a pas été impliqué dans l'assassinat de Lumumba.
Monsieur l'ambassadeur, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais avant de prendre les dernières réactions des auditeurs, j'aimerais vous poser de petites questions. Vous allez y répondre brièvement. La première, c'est quel est l'héritage sur le plan sécuritaire et politique que la Belgique a laissé à la RDC?
Je dirais, la première chose que la Belgique a léguée au Congo, ce serait frontière. Et je crois que on ne soulignera jamais assez le génie du roi Léopold II d'avoir donné au Congo ses frontières, à la Belgique d'avoir gardé ses frontières, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir avant tout. Deuxième chose, je crois qu'il faut accepter que, comme la Belgique, et c'était, je pense, le citoyen Ramazani qui le disait, le Congo est aussi fait d'une diversité, je dirais, ethnique, culturelle, clanique, qui est extrêmement grande. Et le miracle est malgré tout que la structure qui a été donnée à ce pays a survécu au bout de 50 ans, et que le Congo se retrouve au bout de 50 ans dans une situation, je dirais, d'un pays unifié et pacifié pour une grande, très grande part. Je crois que c'est ça, tout même, un apport indirect de la Belgique, c'est que nous avions créé un pays suffisamment, je dirais, avec un esprit de nation suffisamment fort pour que les sécessions n'ont pas pris racine et pour que les divisions qui ont été connues actuellement s'amenuisent pour tout de même donner au Congo un État et une nation dont personne ne peut nier l'existence.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la Belgique est prête à assouplir les conditions d'établissement des Congolais sur son sol? Ça aussi, c'est quand même un problème.
De toute façon, c'est présenté comme un problème. Je ferai tout de même clairement la distinction entre ce que nous entendons sous conditions d'établissement et conditions de bref séjour. Je rappellerai une chose, et certains sont étonnés, il y a quand même un climat d'établissement qui ne doit être pas trop mauvais, puisqu'il y a eu entre-temps 24 000 Congolais qui ont acquis la nationalité belge. Je ne sais pas combien de Belges ont eu la possibilité d'acquérir la nationalité congolaise. Donc, dire qu'il n'y a pas de climat d'établissement en Belgique est faux, puisque 24 000 Congolais sont devenus Belges entre-temps. Ce qui pose quelquefois de problèmes, c'est les visas de courte durée, ce qui veut dire un Congolais qui souhaite se rendre en Belgique. Mais là, je reconnais que nous avons un régime qui est positif, mais où nous demandons aux Congolais, je dirais, dans leur application du visa, d'être transparents et honnêtes. Et reconnaissons, il y a eu pas mal d'abus en ce qui concerne les demandes de visa. Et ce sont les abus des Congolais qui ont provoqué, je dirais, une approche plus stricte dans la façon dont nous traitons les visas. Mais il est faux de dire qu'on ne donne pas les visas. Aller dans la nouvelle maison chimique est une réalisation remarquable. Vous avez tous les jours une centaine de Congolais qui viennent demander des visas, et la plupart l'obtiennent. Mais nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de frivolité, d'inexactitude dans la façon dont les Congolais remplissent leur visa, ce qui rend les choses plus difficiles, parce que, comme vous le savez, beaucoup de ces demandes de visa sont, dans un premier stade, traitées par ordinateur. Si on trouve 3-4 inexactitudes, ben, les lampes se mettent sur orange en disant qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. On demande aux Congolais, avez-vous des moyens de subsistance? Quel est l'objectif de votre voyage? Qui sont des choses normales dans les relations entre deux pays? C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez pour tourisme? Est-ce que vous vous rendez pour des raisons ans d'études, vous vous rendez raison. Et je reconnais qu'il y a une certaine une façon stricte d'analyser les demandes de visa. Mais donc, faisons clairement la distinction entre l'établissement, d'une part, où nous sommes plus généreux, et d'autre part, les visas de courte durée, où les améliorations sont possibles. Je reconnais une des difficultés, c'est que le Congolais n'a actuellement que deux endroits où il peut demander des visas, c'est Kinshasa et Lubumbashi. Nous espérons pouvoir ouvrir notre consul général à Bukavu pour aussi délivrer le visa de ce côté-là. Et une fois ça, vous verrez, on traitera avec plus de rapidité parce que c'est clair, il faut 10 jours pour qu'une demande de visa soit traitée du fait que nous devons interroger les pays membres de Schengen. Et donc, il y a des difficultés, je le reconnais, mais systématiquement décrier la politique du visa de la Belgique serait faux. Regardez combien de Congolais reçoivent par an le visa et vous serez étonné.
Nous allons prendre les dernières réactions des auditeurs. Elles sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas toutes les lire. Merci aux auditeurs pour leur temps de participation. Monsieur l'ambassadeur, vous allez donner des réponses vraiment brèves hein, aux questions des auditeurs. Kamango de Béni au Nord-Kivu, peut-on encore dire que la Belgique a un droit de regard sur les RDC? Si oui, quelle a été sa contribution pour la réussite du 50e de l'indépendance de notre pays, monsieur l'ambassadeur?
Je dirais, brièvement, je dirais droit de regard, non, dans une politique de bonne relation, et sinon de développer le climat de sympathie entre les deux pays.
Guy Tshibonge, je suis Congolais résident à Bruxelles en Belgique. Je voudrais savoir à l'aube du 50e pourquoi la RDC ne perçoit pas les revenus ou une partie des recettes provenant des musées où la plupart des œuvres sont. Des œuvres sont congolaises. Je cite par exemple le Musée royal des terres burelles, j'espère que j'ai bien prononcé. Est-ce que le droit d'auteur n'existe pas pour les œuvres du Congo?
Mais je dirais, vous savez, les revenus du musée de Terrure sont insuffisants pour le maintenir en bon état. C'est un musée qui est subsidié par le gouvernement belge et donc ils n'ont pas de revenus suffisants pour maintenir le musée en bon état. Et je dirais que la grande contribution de la Belgique, c'est de sauvegarder l'héritage congolais à Terrure et être prêt à le partager au travers des technologies modernes. Mais donc ne croyez pas que la Belgique se mette de l'argent en poche au travers du musée de Terrure. Il coûte aux citoyens belges.
À Bombay de Johannesburg, en Afrique du Sud, nous sommes convaincus que les relations RDC-Belgique ne profitent pas à la population congolaise, mais aux dirigeants qui cherchent à tout prix à s'accrocher au pouvoir, monsieur l'ambassadeur.
Je peux vous garantir que la préoccupation première de la coopération belge est d'avoir une approche qui est, je dirais, basée sur l'intérêt du Congolais. Quand je cite les secteurs, les déserts rurales, les bacs, l'amélioration des filières semencières et les écoles techniques et professionnelles, je ne vois pas quel est le dirigeant qui actuellement est à l'école technique et professionnelle. Je ne vois pas quel est le dirigeant qui profite immédiatement des filières semencières et qui profite des déserts rurales d'une façon immédiate. Je crois qu'il n'y a pas une coopération bilatérale qui est aussi proche de la population que la coopération belge.
Docteur Solima Didas de Kinshasa, par rapport aux relations belgo-congolaises, nous voulons l'égalité, le respect mutuel, la solidarité et l'équité entre les deux pays. La Belgique doit se montrer plus solidaire à l'endroit de la RDC pour des raisons à la fois historiques et de mémoire.
Donc, nous souhaitons des relations sur pied d'égalité et il est indéniable que nous souhaitons que cette coopération soit profitable pour les citoyens congolais.
Greg Sibingo, délégation au Katanga, les réactions, en tout cas, il y en a beaucoup. La Belgique a joué un rôle à deux vitesses dans la politique congolaise en octroyant l'indépendance à la manière des chevals de Troie et en étant accusé d'être impliqué dans l'assassinat de Lumumba. En organisant la mort publique de Lumumba, monsieur l'ambassadeur, ne trouvez-vous pas raisonnable à l'occasion de cet événement dont vous êtes aussi acteur historique comme le roi Albert sera présent, que vous puissiez honorer le devoir de mémoire en vous inclinant devant le monument de Lumumba pour un mea culpa?
La Belgique est invitée aux festivités du 50e. La Belgique respecte le programme du gouvernement congolais et ne souhaite pas récupérer des événements comme ces festivités pour des événements politiques. J'ai parlé concernant le Lumumba, que la commission parlementaire belge a fait un devoir historique de reconnaissance en ce qui concerne, je dirais, l'environnement dans lequel tout cela s'est passé.
Enfin, à Moulani Sabani de Butembo, Nord-Kivu, pourquoi le roi Albert II vient pas au Congo avec un premier ministre démissionnaire? Cela n'est pas un signe de sabotage?
Non, au contraire, je crois que c'est une des premières fois qu'un roi voyage avec son premier ministre, et c'est au contraire...
Démissionnaire quand même.
Ce n'est pas la faute ni du roi, ni du gouvernement. moment, il y avait, disons, une situation politique qui a fait que le gouvernement a dû démissionner. Il était aussi impossible dans un régime démocratique qu'on ait un gouvernement gouverné dans la perspective d'un événement étranger. Ce n'est pas l'habitude dans les relations internationales, chacun assume son histoire et les crises politiques, mais que le fait que ce ne soit pas le ministre des Affaires étrangères, pas le ministre de la Coopération, mais le premier ministre belge qui vient, puisque tous les ministres sont démissionnés, tout le gouvernement est démissionné, je trouve que c'est un hommage au Congo d'envoyer comme responsable politique la plus haute personnalité politique possible, et il n'y avait pas d'autre choix, il faut que ce soit un ministre d'un gouvernement qui vienne, qui porte la responsabilité politique du voyage.
Monsieur l'ambassadeur, c'est la fin de cette émission, votre dernier mot en guise de conclusion.
Ben, profitons justement de ce cinquantenaire pour relancer les relations entre nos deux pays dans un esprit de ce que j'ai dit, de maturité, de stabilité, de complicité et de compréhension mutuelle. Je crois que les deux pays le souhaitent, les dirigeants des deux pays le souhaitent, profitons-en et ne nous laissons pas entraîner par ceux qui veulent régulièrement des crises entre nos deux pays.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Dominique Spreuil, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe du Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu et Samuel Kachakou, la supervision de Ben Kabamba, Mimiki Ndouté à la technique, au micro, Kevin Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Merci beaucoup. Thank you.